Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi 9 septembre 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Piraterie maritime, les États-Unis reconnaissent officiellement le vol d'un million de barils de pétrole brut iranien. Des milliers de civils ont fui les zones contrôlées par les FDS et ont trouvé refuge dans les zones contrôlées par l'armée syrienne. Et au Niger, les musulmans ont prié devant la base militaire abritant les troupes françaises pour que les forces de l'ancien colonisateur quittent ce pays d'Afrique de l'Ouest. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Des documents judiciaires récemment dévoilés ont confirmé publiquement que le gouvernement américain avait volé près d'un million de barils de pétrole brut iranien sur le pétrolier géré par la Grèce, le MT Suez Rajan. Le département d'État a déclaré vendredi 8 septembre que le gouvernement américain avait saisi le navire et sa cargaison de 980 000 barils de pétrole brut, alléguant qu'il transportait du pétrole iranien vers la Chine en violation des sanctions de Washington contre Téhéran. Il a en outre affirmé que le gouvernement américain avait obtenu un mandat plus tôt cette année pour sa saisie. Le 19 avril, au moment de la saisie, le propriétaire du navire, Suez Rajan LTD, a plaidé coupable de violation des sanctions et a été condamné à une amende de 2,5 millions de dollars. Par la suite, l'exploitant du navire grec, Empire Navigation, a accepté de coopérer avec les autorités américaines et a ordonné au navire, alors situé en Asie du Sud-Est, d'acheminer son chargement de pétrole vers les États-Unis. Le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, le contre-amiral Ali Reza Tangsiri, a averti le 20 juillet que toute compagnie pétrolière chargeant des centaines de milliers de barils de pétrole iranien saisis se trouvant dans le pétrolier grec au large des côtes du Texas serait tenue pour responsable. Les propos tenus par le contre-amiral Ali Reza Tangsiri interviennent à l'occasion de l'anniversaire de la confiscation par l'Iran d'un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz en 2019, après que la Grande-Bretagne eut saisi un pétrolier iranien au large de Gibraltar. Quelques jours après la saisie du MT Suez Rajan, la marine iranienne a saisi dans la mer d'Oman un pétrolier battant pavillon des îles Marshall qui transportait du pétrole koweïtien pour le compte de la deuxième plus grande société énergétique des États-Unis. Le pétrolier avait été impliqué dans un accident maritime avec un bateau de pêche iranien qui avait entraîné des blessures et la disparition d'un certain nombre de membres de son équipage. Après la collision, le pétrolier a tenté de fuir les lieux en violation des droits et réglementations internationales qui exigent la fourniture de soins médicaux et de médicaments appropriés et suffisants aux marins en cas de maladie ou de blessure. Après avoir été stationné au large des côtes du Texas pendant des mois, le Suez Rajan a commencé le 21 août le transfert de son pétrole de navire à navire pendant des heures vers un autre pétrolier, le MR Euphrate. Les documents judiciaires récemment publiés confirment que le gouvernement américain a ensuite saisi le pétrole. La République islamique d'Iran soutient un dialogue entre la Syrie et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, et une enquête impartiale sur les incidents chimiques présumés dans ce pays arabe en vue d'une éventuelle clôture du dossier chimique du pays, a déclaré l'envoyé iranien à l'ONU, Amir Saïd Iravani. L'ambassadeur permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a fait ses remarques jeudi à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la Syrie. Nous soutenons pleinement un dialogue constructif entre la Syrie et l'OIAC, a-t-il dit. Nous pensons que pour garantir un résultat positif, toute enquête sur les incidents liés aux armes chimiques doit être menée avec la plus grande impartialité, professionnalisme, crédibilité et objectivité, a déclaré l'envoyé permanent de l'Iran auprès des Nations Unies. La Syrie a remis l'intégralité de ses stocks de produits chimiques en 2013 à une mission dirigée par l'ONU et l'OIAC. Les gouvernements occidentaux ont cependant accusé à plusieurs reprises Damas d'avoir mené des opérations chimiques présumées pendant la guerre soutenue par l'étranger et l'ont attaqué à plusieurs reprises en utilisant ces allégations. Damas a toutefois déclaré qu'aucune attaque chimique n'avait eu lieu. Des milliers de Syriens ont trouvé refuge dans les zones contrôlées par l'armée syrienne à la suite des récents conflits entre les FTS et les tribus arabes à Deir ez-Zor. Ces dernières heures ont été marquées par un afflux de la population à l'est de la province de Deir ez-Zor, sous contrôle des FTS, proches de l'armée américaine, vers les zones contrôlées par l'armée syrienne, en raison de l'intensification des conflits entre les factions fidèles à l'armée américaine et les tribus arabes. Au moins 5 000 civils ont traversé l'Euphrate en bateau depuis les zones contrôlées par l'armée américaine et les paramilitaires pro-américains vers l'autre rive où sont installés les militaires de l'armée syrienne. Des dizaines de civils blessés, victimes de violents affrontements internes entre paramilitaires pro-américains, sont également arrivés à Al-Mayadin, la plus grande ville de Deir ez-Zor, sous le contrôle de l'armée syrienne, où ils ont été soignés dans les hôpitaux. Malgré les conditions économiques difficiles que connaissent les habitants de la ville et d'autres villages en raison des sanctions économiques imposées par les États-Unis à la Syrie, cela n'a pas empêché les gens de se précipiter pour ouvrir les portes de leurs maisons à des familles expatriées qui ont fui les affrontements entre les groupes armés fidèles à l'armée américaine, rapportent des sources d'information sur place. Les musulmans nigériens ont prié devant la base militaire abritant les troupes françaises dans la capitale Niamey pour que les forces de l'ancien colonisateur quittent ce pays d'Afrique de l'Ouest. Les prières ont eu lieu vendredi 8 septembre en soutien aux chefs militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum, allié de Paris, en juillet lors d'un coup d'État. Les relations se sont détériorées entre Paris et Niamey depuis le putsch en raison du refus du gouvernement français de reconnaître les nouveaux dirigeants du Niger et de son soutien à l'ancien président. Le mois dernier, les chefs militaires du Niger ont déclaré l'ambassadeur de France Sylvain Ité persona non grata et ont révoqué son immunité diplomatique. Le peuple nigérien, le peuple puissant du Niger, a exigé que l'ambassadeur de France et les forces terroristes françaises quittent notre sol. Et pour cela, nous sommes prêts à nous mobiliser et à répondre à tous les appels patriotiques pour que le Niger puisse gagner et retrouver sa véritable souveraineté après 63 ans de guerre, a déclaré Reuters Idriss Maïgal Zouma, un habitant de Niamey. L'idée de faire une prière collective, c'était de demander au bon Dieu de bénir nos vies et de demander au bon Dieu de nous aider dans cette lutte, a déclaré Ibrahim Boubacar, un autre habitant de Niamey. Nous pourrions effectivement prier dans une mosquée, mais nous devons le faire ici devant eux pour qu'ils puissent nous entendre, a-t-il ajouté. Lundi, Ali Mahaman Lamine Zain, premier ministre du gouvernement militaire du Niger, a déclaré que des contacts étaient en cours pour ouvrir la voie au retrait très rapide des troupes françaises. Le lendemain, le journal français Le Monde a rapporté que la France avait entamé des négociations avec des responsables nigériens au sujet du retrait des troupes françaises du Niger. La Corée du Nord a organisé un défilé militaire massif pour marquer le 75e anniversaire de sa fondation en présence de diplomates russes et d'une délégation chinoise de haut rang. L'événement s'est déroulé vendredi 8 septembre dans la capitale Pyongyang sous les yeux du dirigeant Kim Jong-un, accompagné de sa fille, souriant et applaudissant, a rapporté l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Le défilé mettait en vedette des brigades paramilitaires en uniforme, dont certains sont déplacés en tracteur ou dans de gros camions rouges, a noté KCNA, ajoutant qu'ils ne semblaient pas présenter les armes interdites dans le pays, notamment les missiles balistiques intercontinentaux. Le président russe Vladimir Poutine a envoyé à Kim un message célébrant cet anniversaire dans lequel il appelle les deux pays à développer les liens bilatéraux à tous égards. La participation de diplomates russes et chinois aux célébrations de l'anniversaire intervient dans le cadre des derniers efforts de Kim Jong-un pour approfondir les liens avec Moscou et Pékin. Le défilé militaire de vendredi a eu lieu alors que Pyongyang a lancé son premier sous-marin nucléaire tactique opérationnel, le chargeant de patrouiller dans les eaux situées entre la péninsule coréenne et le Japon. qui m'a déclaré qu'armer la marine avec des armes nucléaires était une tâche urgente. Il a par ailleurs promis de transférer davantage de navires sous-marins et de surfaces équipées d'armes nucléaires tactiques aux forces navales. La Corée du Nord est soumise depuis des années à de sévères sanctions de la part des États-Unis et du Conseil de sécurité des Nations Unies en raison de ses programmes nucléaires et balistiques. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. L'Europe reconnaît l'absence de consensus parmi les dirigeants du G20. Il est difficile de prédire si les dirigeants du G20, qui se réunissent pour un sommet à New Delhi ce week-end, parviendront à un consensus sur une déclaration, a déclaré vendredi le président du Conseil européen, Charles Michel. En dépit des tentatives propagandistes de l'Occident pour montrer un front uni contre les pays non alignés, le président du Conseil européen a reconnu l'absence de consensus entre les dirigeants du G20. Il est difficile de prédire s'il sera possible de parvenir à un accord sur la déclaration, a indiqué Charles Michel lors d'une conférence de presse dans la capitale indienne. « Nous sommes toujours en train de négocier », a-t-il dit. Selon les analystes, les divisions profondes sur la guerre en Ukraine sont susceptibles de faire dérailler la coopération internationale autour de la sécurité alimentaire, le surendettement ou encore le changement climatique. Selon Charles Michel, l'Union européenne souhaite avancer sur les enjeux de sécurité énergétique et alimentaire après le retrait de la Russie de l'accord sur l'export de céréales en mer Noire. Sur cette base, parmi les questions qui devraient être soulevées lors du sommet du G20, figure la relance de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire et les solutions censées mettre fin à la guerre en Ukraine. Reconnaissant que le sommet ne peut pas résoudre tous les problèmes mondiaux majeurs, Michel a ajouté que l'Union européenne souhaite que le sommet accélère les efforts en faveur des objectifs de développement durable et publie une déclaration sur le changement climatique et la réduction de la pauvreté. Plus tôt, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait déclaré que la Russie n'accepterait pas la déclaration du sommet du G20 si elle ne reflétait pas la position de Moscou sur les crises mondiales. Par ailleurs, la chaîne Bloomberg, citant des sources bien informées, a rapporté que l'Union européenne cherchait à exploiter l'absence des dirigeants de la Russie et de la Chine au prochain sommet du G20 dans l'objectif de contacter les pays en développement. Ni le président russe Vladimir Poutine, ni le président chinois Xi Jinping ne participeront au sommet. Moscou enverra son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, tandis que le premier ministre chinois, Li Qiang, représentera Pékin. Le sommet de New Delhi se tiendra les 9 et 10 septembre en présentiel. Les dirigeants de tous les pays du G20 et de 9 autres États ont été invités à participer au sommet.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Ce nouveau numéro va de nouveau parler de la Palestine. En effet, les soldats israéliens, les soldats de l'occupation ont de nouveau attaqué donc les Palestiniens et cette fois à un niveau encore plus immoral qu'avant. C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Tout d'abord, donc, je vous propose de regarder le reportage qui vous résumera les actions et les actes réalisés par ces soldats d'occupation. Et par la suite, nous ferons venir nos invités. tout de suite le reportage.
L'Organisation des Nations Unies a demandé mercredi 6 septembre une enquête sur l'incident au cours duquel des soldats israéliens ont déshabillé de force 5 femmes palestiniennes dans la ville d'Al-Khali, dans le sud de la Cisjordanie occupée lors d'un raid dans un immeuble résidentiel. L'Organisation de la coopération islamique a également fermement condamné les soldats israéliens pour avoir fouillé à nu 5 femmes palestiniennes à Al-Khalil. Les forces du régime israélien ont fait irruption dans la maison de la famille Ajlouni tôt le matin du 10 juillet. Deux femmes soldats ont emmené la mère de 53 ans, sa fille de 17 ans et les 3 belles-filles, toutes âgées d'une vingtaine d'années, dans la chambre des enfants où elles ont forcé de se déshabiller. Équipés de fusils, les soldats ont menacé de lâcher des chiens K9 contre les membres des familles si les femmes n'obéissaient pas. Cela alors que les soldats ont procédé à des fouilles corporelles sur les hommes alors qu'ils étaient habillés. Or, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, a appelé à une enquête immédiate sur l'affaire. Lors d'une conférence de presse, mardi, Farhan a été invité à commenter l'incident. Cela doit être l'objet d'une enquête de la part des autorités compétentes et nous serons opposés à toute forme de punition collective, a répondu Farhan. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés de la Palestine, Francesca Albanese, s'est également prononcée sur l'incident et a écrit sur X « Les rapports selon lesquels des soldats masqués ont pris d'assaut les maisons palestiniennes la nuit, réveillant les familles, forçant les femmes à se déshabiller sous la menace d'un fusil, sous la menace des chiens d'attaque, tandis que des enfants hurlent de terreur, sont absolument épouvantables. » Cette attaque incessante contre les personnes et leurs droits doit cesser. Amal Ajlouni, l'une des personnes fouillées à nu, a déclaré au groupe israélien de défense des droits Betzlem « Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. La fouille et l'humiliation que j'ai subie devant les femmes soldats, ainsi que l'impuissance et la honte que j'ai ressentie devant mes enfants. Ils sont désormais peur de dormir dans leur chambre la nuit et de venir dans notre lit. » L'agression suscite les condamnations de l'OCI et des Palestiniens. Par ailleurs, la Commission des droits de l'homme du Parlement palestinien a déclaré dans un communiqué que la fouille à nu démontrait l'étendue de la laideur et du fascisme de l'occupation devant le monde, appelant à la formation d'une commission d'enquête internationale.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Tout d'abord, je vous propose d'abord de faire venir nos invités. Donc notre premier invité étant Monsieur Jean-Maxime Corneille. Bonjour Monsieur Corneille, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour Téhéran, merci pour votre invitation. Encore un sujet sensible aujourd'hui.
Oui, encore un sujet sensible malheureusement. Deuxième invité étant Madame Aïssar Midani, franco-syrienne. N'oubliez pas que Madame Midani connaît très bien la situation puisqu'elle vit en Syrie, que ce n'est pas la première fois aussi qu'elle est témoin d'exactions dues à un manque de respect des droits de l'homme. Madame Midani, ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci de votre invitation.
Merci, Madame Midani. Alors, comme vous l'aurez compris, donc aujourd'hui, de nouveau, nous parlons de la Palestine. Encore une fois, depuis le début 2023, ce sont des exactions, en n'oubliant pas que souvent les enfants palestiniens sont pris pour cible par les soldats d'occupation. Aujourd'hui, c'est toute une famille avec des femmes. Encore un cran dans le manque d'humanité et l'irrespect des droits de l'homme. Cette fois, une réaction des organisations des Nations Unies. Est-ce que ce genre d'enquête qui disent compétente va servir à quelque chose pour la cause palestinienne, Madame Midani?
Écoutez, je pense que même les exactions israéliennes contre les Palestiniens se répètent sans cesse depuis des années. Cette année, ils sont plus particulièrement, pas seulement humiliants, mais ils sont plus particulièrement aussi méchants et horribles. Horrible même par rapport aux violations des droits de l'homme, horrible par rapport à la simple existence des personnes. Et ils s'en prennent aussi bien aux enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans et même 14 ans. Là, dernièrement, un jeune de 14 ans a été tué par les Israéliens. Contre les femmes partout, aussi bien dans la mosquée Al-Aqsa et sur le, empêchant d'ailleurs les gens de faire leurs prières, mais aussi on a vu sur toutes les chaînes et sur l'Internet des vidéos qui tournent en boucle, en fait, où il y a des jeunes femmes qui se font cogner, racler, rouler par terre, complètement tirées par les forces de police et par les colons. Tout ça au vu et au su du monde entier. Et puis maintenant, les violations de domicile, pas seulement la nuit, le jour, à tout moment, les destructions de maisons, la destruction des maisons sur la tête de leurs habitants, tout simplement parce qu'ils ont osé agir pour la défense de leurs droits. Donc là, ça vient, c'est, je dirais, c'est vraiment le summum dans, la, dans l'humiliation qui est d'obliger les femmes à se déshabiller et surtout utilisant aussi les, devant leurs enfants, de leur, devant leur famille, mais aussi l'utilisation des chiens d'attaque. C'est vraiment systématique dans la pratique israélienne. C'est aussi systématique, malheureusement, dans le silence des médias occidentaux, des médias mainstream qui se prétendent défenseurs des droits de l'homme, etc. Et c'est aussi le silence de tous ces pays qui soutiennent l'État fantoche d'Israël et qui ne sont, qui prétendent être les rois de la démocratie, alors qu'ils sont vraiment les créateurs de ce régime fasciste et les grands, le grand soutien de ce régime d'apartheid qui est fasciste et qui est terroriste en même temps et qui n'arrête pas de violer tous les droits humains, les droits internationaux, les, vraiment tout, alors, donc qui, se, qui s'arroge toutes les libertés, les droits des détenus d'ailleurs aussi. Il faut voir ce qui se passe dans les prisons israéliennes. Tout ça, en fait, avec un soutien total du monde occidental, du, des pays de l'OTAN, à ce pays fantoche, en fait, à ce, cet État fantoche qui s'assoit sur toutes les règles et sur toutes les lois et qui, en fait, défie tout le monde. À tel point, d'ailleurs, que même des responsables israéliens sont dégoûtés eux-mêmes et disent que c'est un état d'apartheid.
Merci Madame Midani pour les, l'éclaircissement de la situation. Monsieur Jean-Maxime Corneille, on a déjà vu pendant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale surtout, le fait de dire que quand, une, quand un groupe de personnes se trouve sous occupation, ils ont le droit finalement de ne plus respecter les règles et les lois. Depuis le début, la Knesset et puis le, donc le Parlement de l'entité sioniste ont toujours indiqué que s'ils s'en prenaient aux Palestiniens, c'est parce qu'ils s'en prenaient, ces Palestiniens ne respectaient pas les lois. Est-ce qu'au vu de la situation, surtout ces deux dernières années qui ont été plus que extrêmement difficiles, on parle de cruauté, on parle d'un manque de respect de la, des droits de l'homme, on parle de, d'enfants qui ont été emprisonnés, de femmes encore cette semaine qui ont été déshabillées de force, on n'oublie pas. Est-ce que dans ce cas-là, les lois de la Knesset qu'il prévalue devant les Nations Unies comme étant leur raison d'attaque concernant le peuple palestinien, est-ce que finalement, ça ne va pas finalement, grâce à cause de ce genre d'actes, montrer au monde entier que ce sont des fausses lois et elles n'existent pas en fait?
C'est un énorme sujet évidemment qui est en réalité extraordinairement intéressant. Je précise au passage quelque chose. J'ai oublié de saluer Madame Midani qui a fait un, votre invitée Madame Midani qui a fait un travail extraordinaire au sujet de la Syrie depuis des années. Pardon pour moi, mea culpa. Le fascisme, par contre, l'utilisation du terme fascisme est totalement hors de propos ici. Le fascisme, c'est tout à fait autre chose. Nous ne parlons pas ici de fascisme, ça n'a rien à voir historiquement avec le, ce dont nous parlons. En revanche, en son temps, Yehoshua Leibowitz, grand esprit juif, avait énoncé la crainte d'un État d'Israël empêtré dans une fuite en avant sécuritaire, oubliant les impératifs religieux universels. Il disait que dans toutes les générations, il s'est retrouvé des individus pour rejeter le joug des mitzvot, les commandements divins, Mais il existait une présomption du peuple juif que le peuple est juif, était comme le peuple de la Torah, alors qu'aujourd'hui, dans le sens un peuple supérieur aux autres, alors qu'aujourd'hui cette présomption a disparu. Avec l'idée que le peuple juif ne se définit plus par le judaïsme, mais surtout, Leibowitz parlait d'un risque universel d'une mentalité judéo-nazie, c'est-à-dire une mentalité nazie n'étant pas le monopole des vilains allemands, mais existant aussi chez les juifs. C'était un grand esprit juif qui avait cette lucidité, en parlant du fait qu'en effet, aucun groupe humain n'est à l'abri. C'est également un grand esprit polonais, un Solzhenitsyn polonais que personne ne connaît, Łobaczewski, Andrew Łobaczewski, qui avait écrit un livre qui s'appelle Ponérologie, de Poneros, le mal en grec, l'étude sur la genèse du mal en politique, la question de savoir comment des humains mettent en place des régimes inhumains. Et il arrivait à la conclusion que dans toute communauté humaine, vous avez 4 à 6% de psychopathes. Et vous pouvez ajouter des sociopathes, vous pouvez créer 15-20% de sociopathes, voire plus, si vos enseignements religieux ne sont pas bons. Or là, nous avons une religion qui prêche fondamentalement un suprémacisme absolument anti-spirituel que tous les réformistes juifs ont critiqué. Regardez, Hillel, à l'époque antique, voulait instaurer la règle d'or, c'est-à-dire ne pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas qu'il nous fît. Il voulait instaurer ça dans le judaïsme, car le judaïsme est la seule religion dans laquelle n'existe pas cette règle d'or, elle est restreinte aux juifs eux-mêmes. Et tous ces réformistes juifs ont été massacrés par des fanatiques. Je l'ai déjà dit sur votre antenne, c'est la grande tare du judaïsme. Les fanatiques ont toujours massacré les non-fanatiques. Hillel a été massacré par les zélotes. Et Yahushua Leibowitz, il est mort aujourd'hui, il est mort de sa belle mort. Néanmoins, il mettait en garde le peuple israélien de ce que n'a toujours pas compris le judaïsme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les juifs créent un État, il le crée contre les autres d'une façon qui est anti-spirituelle et donc qui est vouée à disparaître.
Monsieur Cornet, excusez-moi de vous interrompre, mais quand on revient, parce que pour le rappel à nos téléspectateurs, malheureusement, l'État palestinien n'a pas été reconnu par tout le monde, en tout cas au niveau international. Vous avez des institutions internationales. On oublie que certains pays reconnaissent la Palestine comme existante et ne reconnaissent pas, par contre, l'entité sioniste. Mais pour les institutions internationales, c'est l'inverse. Ce sont donc l'entité sioniste qui est reconnue et pas la Palestine. Et l'antisionisme s'est toujours présenté au niveau international en disant les Palestiniens ne respectent pas les lois et c'est à cause de ces lois non respectées qu'il y a des attaques, qu'il y a destruction de maisons, etc. Ces lois qui ont été bien entendu écrites sous réaction directe de ce que faisaient les Palestiniens. Est-ce qu'au vu de la situation, surtout depuis le début 2023 où on a vu une croissance très importante des attaques contre les Palestiniens, les maisons palestiniennes, les familles palestiniennes et également les enfants et les femmes, donc encore une fois, ça fait partie d'un dogme international de ne pas s'en prendre aux familles. Est-ce qu'on peut penser que ces lois donc, ne seront plus respectées, ne seront plus vues comme des lois par les entités internationales,
Alors, il est évident que les lois israéliennes prennent en défaut le droit international, mais d'ores et déjà, depuis le début, c'est l'ONU qui s'était fait tordre le bras. Rappelez-vous le destin de Folke Bernadotte, le diplomate suédois qui s'était fait assassiner par des terroristes Exactement. Juifs en 1948 à Jérusalem. La solution initiale à deux États était historiquement bafouée. Le droit international a été bafoué avec une complicité massive, globale, depuis des années. C'est-à-dire que là, nous avons en effet un État d'Israël qui s'entête dans une illégalité. M'entendez-vous toujours, pardon ?
Oui, toujours.
Et cette illégalité, là, se transmet par des lois. Par contre, c'est là où il nous faut recentrer le sujet. On va y revenir après, je ne veux pas faire une intervention trop longue. Mais le vrai sujet pour moi, c'est une provocation qui permet l'entretien du djihadisme, dont quelque part Netanyahou a besoin pour faire oublier la crise actuelle de la société israélienne. Et là, c'est ce sur quoi nous devrions mettre l'accent, outre un point sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Mais concernant le droit international, il est évident qu'il est bafoué depuis le début. Ce sont des lois anti-humanistes qui sont prises par l'État d'Israël, et c'est une usure de la société israélienne qui s'opère sous nos yeux, comme Mme Midani l'a fait remarquer. En ce sens, c'est quelque part une bonne chose, parce que ça va donner une chance aux Juifs. Regardez, on a vu non pas uniquement Haaretz, la gauche israélienne, mais également le Times of Israel, rendre compte de cette fouille au corps qui a été particulièrement irrégulière. Et ça veut dire que des prises de conscience massives au sein de la société israélienne sont la conséquence de ce bellicisme ou de ces positions qui sont absolument intenables. En ce sens, ce genre de martyr est quelque part une bonne chose pour les prises de conscience des uns et des autres, mais on sent une énorme inertie, bien sûr, chez les Juifs pour prendre conscience du fait qu'ils abusent à force de considérer les humains qui ne sont pas comme eux comme des sous-humains. Ce n'est pas correct.
Merci,
c'est
Monsieur
anticipé,
Cornel.
Voilà.
C'était d'ailleurs ma prochaine question auprès de Mme Midani, étant donné qu'encore une fois, Mme Midani a été témoin par le biais de la Syrie des exactions de Daesh qui ont été directement aidées par l'antisioniste. Ce n'est plus un secret, ça a été prouvé, les photos au niveau visuel. Mme Midani, c'est là la prochaine question. Ce sont des soldats, ce n'est pas seulement le gouvernement qui réalise ses lois, qui donne ses obligations et ses ordres. Il y a les soldats israéliens, ils sont sous... le plus souvent, ce sont des services militaires obligatoires. Comment les soldats peuvent en arriver là? Est-ce qu'il n'y a pas une crise au niveau de l'armée israélienne par rapport à ce qu'on leur demande, à ce qu'on leur réclame? Parce que finalement, ce ne sont pas seulement des ordres, ce sont aussi des humains qui écoutent ces ordres-là et qu'ils les font.
Alors, en plus des soldats, ce sont les colons aussi, je tiens à signaler, qui n'ont rien à voir avec ni les soldats ni la police, hein, qui aussi mènent des exactions contre la population palestinienne. Parce que tout ceci revient, en fait, à toute l'idéologie propagée par cet État israélien, qui revient à dire un bon Palestinien est un Palestinien mort. Donc, en fait, ils essayent d'encourager tout le monde à tuer le maximum de Palestiniens, qu'ils soient des enfants, qu'ils soient des femmes, des hommes, etc., de tous âges. D'ailleurs, même l'armée, on l'a vu à plusieurs reprises, elle n'hésite pas à tirer sur les enfants, même sur les bébés. Rappelez-vous d'Ahmad Dourra, comme il y en a eu aussi d'autres, des enfants qui ont été tués dans leur maison ou à côté de leur maison, etc., même des enfants de 6-7 ans. Si on pense par exemple, en exemple, les enfants de Barghouti, qui étaient les deux, en fait, les soldats arrivent, ils s'attaquent à la maison, ils s'attaquent aux enfants, ils s'attaquent même aux chiens de la maison, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose, c'est une agression systématique, hein, totale de l'ensemble et une volonté de mobiliser tous les occupants israéliens contre toute la population palestinienne, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a effectivement une grande confrontation et les Palestiniens s'opposent par tous les moyens et résiste par tous les moyens, jeunes comme moins jeunes et adultes. Un deuxième point qui est très important à voir aussi, cette explication comme quoi l'État de Palestine a été donné aux Israéliens par les dieux et aussi impliquant la religion là-dedans, ça fait que toute façon, les autres sont considérés comme du bétail. Ça, c'est aussi important et c'est à voir. Et c'est vraiment l'apogée dans leur idéologie raciste, fasciste et d'apartheid. Le dernier point aussi, en fait, aujourd'hui, ils empêchent tous les moyens de vie aux Palestiniens. Donc, en fait, il faudrait qu'ils acceptent de vivre sans eau, de vivre sans électricité. On voit aussi, on leur met les mains et sur la... si on pouvait les empêcher de respirer, ils n'hésiteraient pas. On est en train de... Comment dire? Je rappelle quand même que Gaza est sous embargo, sous blocus depuis 2007, hein, et par tous les pays, d'ailleurs, occidentaux. D'un autre côté, aujourd'hui, ils arrêtent aussi tous les liens entre les Gazaouis et le reste de la Palestine. Ils font des murs entre les Palestiniens, des murs entre partout. Ils découpent le pays, ils pillent l'eau, ils pillent l'électricité. Donc tout ceci, c'est empêcher les moyens de vie à la population palestinienne et pour l'obliger, pour rendre leur vie impossible en Palestine et pour qu'ils soient morts, soit qu'ils partent.
Merci, Mme Midani.
C'est ça le truc.
Merci. C'est d'ailleurs la prochaine question. Ça tombe bien, vous enchaînez bien les choses. Ma prochaine question à M. Corneille. Il y a un rapport qui est tombé il n'y a pas très longtemps concernant la démographie, l'État sioniste. Donc, cette démographie qui, finalement, après plus de plusieurs années n'a pas modifié, puisque malgré les immigrations proposées par l'entité sioniste, la démographie, elle, palestinienne, n'a pas diminué, c'est même le contraire. Est-ce que Mme Midani voit juste en indiquant que si les exactions se sont empirées ces dernières années, parce que c'est cette démographie qui ne baisse pas, elle?
Il y a une idée extraordinairement dangereuse, c'est la surenchère du fanatisme juif et la surenchère également, la djihadisation des musulmans d'un côté et la surenchère du fanatisme juif de l'autre. Historiquement, ce sont les grands initiés du renseignement militaire américain qui ont fait sortir l'information, qui sont justement vent debout contre Israël, qui avaient dit qu'historiquement, le djihadisme palestinien avait historiquement été créé par Israël, de la même manière qu'au fur et à mesure, à partir des années 1960, Israël a tout fait pour détruire le nationalisme lettré palestinien et pour le remplacer par, globalement, une version djihadisée du Coran. Rappelez-vous, le djihadisme, ce n'est pas l'islam, c'est exactement inverse, c'est l'exact inverse. Il faut être bien clair sur les termes là-dessus. Et donc, cette concurrence des fanatismes a de grandes conséquences également en Occident, puisqu'il y a eu de grandes suspicions concernant des attentats qui ont eu lieu en Occident, notamment en France, qui ont servi à créer de grandes peurs, y compris du temps de la guerre d'Algérie, de grandes peurs chez les juifs d'Afrique du Nord, dénoncés notamment par des juifs marocains d'ailleurs. Et en France, chez les juifs de France, l'idée c'était de créer un courant d'émigration depuis la France ou depuis l'Afrique du Nord vers Israël, afin de peupler Israël et d'établir une sorte de surenchère concurrente pour peupler Israël face aux Palestiniens, pour maintenir une sorte de parité démographique. Et en réalité, les Israéliens n'ayant laissé aux Palestiniens que l'arme des ventres, les Palestiniens combattent avec l'arme qu'ils peuvent, et Israël ne peut pas cacher ses exactions, et donc c'est l'aide humanitaire qui permet cet établissement du rapport de force démographique qui fait qu'au final, la société israélienne s'épuise dans son propre fanatisme. Et dans ce contexte de cette fouille à nu, opérée par des femmes avec des chiens caneufs, ce qui doit éveiller notre attention, c'est un maître sujet, c'est la dénaturation de la contre-insurrection comme étant le seul mode honorable de combat contre le terrorisme. Je parle de la vraie contre-insurrection française, initialement, qui a plus tard été dénaturée par les anglo-américano-israéliens, spécialement par les israélo-britanniques, mais qui s'est vue notamment également en Irak. Ce sont des techniques de dénaturation, initialement de méthodes qui étaient nécessaires pour combattre un terrorisme, et le principe du terrorisme, c'est qu'il s'agit de ne pas le créer. Ce que la France avait fait en Algérie avait été une limitation du ciblage des terroristes aux seuls terroristes importés par les anglo-américains, mais par la suite, pour des raisons pétrolières à l'époque, mais par la suite, les méthodes de contre-insurrection française ont été récupérées et dénaturées par les anglo-américano-israéliens, et c'est ce qui aboutit à des soi-disant techniques antiterroristes israéliennes qui en réalité ne font que susciter le terrorisme djihadiste et l'encourager, et c'est normal, parce que vous ne laissez aux gens que le désespoir, à la grande différence de ce que la France avait fait par exemple pour l'Algérie. L'Algérie était un pays de cocagne en 1962, c'est très peu connu ça. Mais à l'époque, il fallait séparer l'Algérie de la France pour une double raison pétrolière anglo-américaine d'une part, et pour une raison israélienne qui était de créer un courant d'immigration massive des Juifs d'Afrique du Nord vers Israël. Or, nous voyons aujourd'hui que cette concurrence des ventres et ce fait de racler toutes les communautés juives du monde pour les faire se concentrer en Israël, pour être à parité de population face à la Palestine, eh bien, en sous-main, de l'autre côté, les Palestiniens ont été encouragés à faire des enfants, et également, l'humanitarisme occidental a soutenu la Palestine. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand on entend des rabbins et raves fanatiques, ils prétendent que c'est du blanchiment d'argent, que l'Union européenne, si l'Union européenne donne de l'argent aux Palestiniens, c'est pour faire du blanchiment, alors qu'en réalité, cette parité donc évolue dans un sens inéluctablement défavorable à Israël, forçant certaines prises de conscience au final.
Merci Monsieur Cornet, merci Madame Midani. C'est là que se finit le débat. Toujours, on n'a souvent pas assez le temps, mais je vous remercie pour votre expertise à tous les deux, qui était donc concernant la Palestine et les dernières exactions anti-humanitaires de l'entité sioniste. Moi, je vous dis au revoir. C'est ici que se finit notre débat. Je vous propose de le revoir, de le voir sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet du débat, ici à partir des studios de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
la CEDEAO pourrait abandonner l'assujettissement de sa monnaie commune à l'euro. Passer du franc CFA à l'écho fait penser à blanc bonnet et bonnet blanc. Or, l'Afrique occidentale souhaite renforcer sa souveraineté monétaire et devrait donc étudier l'idée de se défaire de son assujettissement à l'euro. Telle est la conclusion faite par d'éminents chercheurs africains réunis à Ouagadougou. Les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, devraient envisager de renforcer leur souveraineté monétaire en abandonnant la mirage de leur unité monétaire commune, le franc ouest africain CFA, à l'euro. Cela signifie qu'il faut revoir les projets de passage du franc CFA à l'écho, ont déclaré le 4 septembre des chercheurs africains lors d'une conférence qui s'est tenue à Ouagadougou. Nous avons constaté que la manière dont le CFA est géré, c'est une monnaie coloniale et néocoloniale qu'on veut remplacer par une autre monnaie, qui est l'écho, qui avait été décrié par des pays comme le Ghana et le Nigeria suite à la sortie du président ivoirien Alassane Ouattara, car ces pays ont trouvé que cette nouvelle monnaie sera pareille au CFA. Et cela n'est pas souhaité par les Africains, qui souhaitent une monnaie souveraine, a déclaré Victor Sanou, directeur exécutif du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales. Précédemment, le 21 décembre 2019, suite à un entretien avec le président français Emmanuel Macron, le chef de l'État ivoirien avait fait une annonce sur la naissance de l'écho qui allait remplacer le CFA. Pour le premier ministre burkinabé, Apollinaire Kelem de Tambela, qu'a présidé la conférence d'Ouagadougou, il est primordial de trouver des moyens pour une monnaie qui remplacera le CFA. Les richesses de notre pays sont essentiellement constituées de minerais et de produits agricoles. Ce sont des matières premières dont nous ne maîtrisons pas les cours mondiaux. Les prix sont fixés à Paris, Londres et New York. Ils évoluent à la hausse ou à la baisse selon les caprices du marché. Dans ces conditions, il est difficile d'avoir une monnaie stable basée sur ces matières premières, à moins de trouver d'autres garanties. C'est pourquoi nous devrions envisager une alternative sérieuse au CFA, a-t-il fait savoir. Une monnaie utilisée pour faire pression. M. Sanou estime que les sanctions imposées sur des pays souverains comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger sont pour la plupart économiques et monétaires. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement conflictuel. La CEDEAO a imposé des sanctions au Mali, au Burkina Faso, au Niger et à la Guinée après que les militaires y ont pris le pouvoir avec le soutien de la population. Ces sanctions sont principalement mises en œuvre par le biais de canons économiques et monétaires. Compte tenu des difficultés rencontrées par la population et du fait que nos pays sont entrés dans le processus de transition vers la nouvelle unité monétaire commune de la communauté éco d'ici 2027, notre centre estime qu'il convient de s'interroger sur les raisons d'une telle décision. Est-il utile d'aller vers une monnaie qui prend déjà les caractéristiques d'un équivalent du CFA? S'est-il interrogé. En décembre 2019, les pays membres de la CEDEAO, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo, sont parvenus à un accord avec la France sur les changements à apporter à la zone monétaire du franc ouest africain, franc de la communauté financière africaine. En vertu de cet accord, le franc ouest africain est rebaptisé ECO, dérivé des trois premières lettres de l'acronyme CEDEAO, mais reste rattaché à l'euro. Dans le même temps, la disposition selon laquelle 50% des réserves de change des pays de la zone franc de la communauté financière africaine doivent être détenues sur les comptes de la Banque centrale française est supprimée. Supprimer également l'obligation de la présence d'un représentant français au Conseil des gouverneurs de la communauté financière de l'Afrique de l'Ouest. Le franc CFA naît officiellement le 26 décembre 1945. Pourtant, il s'inscrit dans une histoire plus ancienne, celle de l'imbrication des colonies à un système monétaire et économique plus vaste qui sert avant tout les intérêts de la métropole. C'est une histoire d'argent, bien sûr, mais aussi une histoire de liberté et d'indépendance, ou de contrainte et de dépendance. Une histoire monétaire qui débute bien avant la Seconde Guerre mondiale dans les colonies françaises d'Afrique. Le franc CFA, histoire de la dernière monnaie coloniale, mais pourquoi pas post-coloniale, voire hyper-coloniale. Dès le XIXe siècle, l'administration française impose la monnaie métropolitaine dans ses colonies d'Afrique subsaharienne et met un terme à la circulation des monnaies endogènes. Le système monétaire colonial s'organise désormais selon ce principe d'actif forcé. La seule monnaie en vigueur est celle du colonisateur. Pour y avoir accès et s'insérer dans les échanges économiques et commerciaux, il faut se plier aux activités prévues par le système colonial. Ce nouvel état de fait sonne le glas d'une myriade d'industries locales, en même temps que l'avènement des grandes plantations où sont produites des matières premières prisées en métropole. Ce système perdure durant la première moitié du XXe siècle. En 1945, la France annonce la création d'une nouvelle monnaie, le franc CFA. Surévaluée, cette monnaie répond à plusieurs nécessités au lendemain de la guerre. Elle permet à la métropole de sécuriser son approvisionnement en matières premières en créant des marchés captifs. Elle encourage le commerce entre les colonies et la métropole. En amont, elle répond aux besoins du colonisateur plutôt qu'à ceux du colonisé. Olivier Vallée nous éclaire sur la portée symbolique de cette nouvelle monnaie. Le CFA signifie la tâche coloniale d'abord. Je tiens à rappeler que le CFA est une monnaie gaulienne. C'est d'abord la Caisse centrale de la France libre installée à Brazzaville qui émet les premiers francs CFA et s'est rattachée également à toute l'ambition gaulienne de réhabiliter le franc après les années terribles qu'il a connues depuis l'époque de Raymond Poincaré. Rapidement contestée, la nouvelle monnaie est rejetée par certains États africains, comme la Guinée et le Mali, au lendemain des indépendances. Pourtant, de nombreux États restent dans la zone franc. Et cette monnaie continue de cristalliser de nombreuses appréhensions. Martial Zebelinga souligne que le franc CFA est le lieu d'observation de quelque chose d'absolument inédit. Dans tous les pays du monde où il y a eu des décolonisations, l'indépendance a entraîné en général des monnaies locales. Il y a quelque chose de très anthropologique dans cette idée de battre sa monnaie et d'avoir ses institutions. En 1960, toutes les réserves de change restent centralisées au niveau du trésor public. C'est-à-dire que les pays africains de la zone franc qui souhaitent acheter des biens et services en dehors de la zone doivent aller demander au trésor public pour pouvoir faire des achats à l'extérieur alors qu'ils sont déjà indépendants depuis une décennie. Cette dimension montre à quel point il était extrêmement difficile pour les dirigeants aux commandes d'accepter ce système-là. Oui, il y a un problème avec le franc CFA, et particulièrement avec les pays d'Afrique subsaharienne. Alors, le franc CFA est-il le signe d'une décolonisation inachevée? Comment sortir aujourd'hui de ce système que certains perçoivent comme une servitude monétaire?
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.